Chapitre 5. Le lendemain, Nicolas se rendit au Monaco. Presque chaque jour, il y passait des après-midi et des soirées entières. C'était un petit café qui faisait le coin des rues Blanches et Chaptal. Des dessins obscènes couvraient les murs de la cabine téléphonique. À côté de l'appareil était accroché le tableau des fournisseurs de Monaco. La porte capitonnée, d'où le crin se sauvait, les banquettes dont la toile cirée s'écaillait, la cuisine dans un réduit sans fenêtre, la sortie mystérieuse donnant sur une cour obscure, tout cela exhalait une odeur de vice et de saleté que semblait couvrir la patente de l'établissement. Peu à peu, Nicolas s'était lié avec certains des habitués. Le garçon, que l'on appelait Jojo, et dont les cheveux tombaient sur le front, cependant qu'ils étaient rasés dans la nuque, lui demanda de sa voix de femme « Qu'est-ce que tu bois, Nicolas ?» Au passant pénétrant par hasard dans le café, il s'adressait à peu près dans les mêmes termes. Il connaissait le nom de tous les clients et était fier de leur parler familièrement. Il s'approchait d'eux dans une attitude de danseuse, soulevant entre le pouce et l'index son tablier, cependant qu'il tenait les autres doigts raides et écartés. Ou bien, faisant le simulacre de jeter quelque chose, il leur disait « Tenez, je vous lance une fleur !» Jamais il n'éprouvait un instant de lassitude. Dès la première heure du jour jusqu'au coucher, il riait, chantait, épousait l'état d'esprit de tous ses clients. « Tu as l'air taciturne, » fit-il à Nicolas. « Si l'on n'a pas envie de rire, on boit un coup et on rit quand même. » À 3 heures de l'après-midi déjà, Nicolas jouait aux cartes dans la salle du fond avec les habitués, qu'ils s'appelassent Moracchini, Fred ou Julien, gagnant, perdant et regagnant en de longues heures des sommes minimes. Vers 6 heures, le café s'animait. Des fonctionnaires, des femmes, des commerçants y venaient prendre l'apéritif. Nicolas continuait à jouer. Au moment du dîner, il commandait un sandwich ou un café au lait avec des croissants, car il n'avait pu s'habituer à demander un café crème. Par-dessus tout, il appréhendait de partir. Dans cette fosse, où ne pénétrait jamais un rayon de soleil, arrivait peu après un nègre surnommé Bamboula. À 10 heures, il allait jouer dans le jazz d'une boîte de nuit proche et ne reparaissait plus que par intermittence pour boire des bocs à la hâte. Vêtu de sombre, portant l'hiver une pelisse, l'été un pardessus clair, il se demandait continuellement si on attachait de l'importance au fait qu'il était d'une autre race. Peu à peu, en remarquant que personne ne faisait attention à la couleur de sa peau, il avait pris de l'assurance. Il affectait de mépriser les femmes qui venaient au Monaco, sentant confusément qu'elles n'avaient aucune place dans la société. Quand les hommes les injuriaient, il croyait habile de se ranger de leur côté et de les approuver. Cela n'allait pourtant pas sans que, parfois, ces hommes-fils volte-face le traitassent de sauvage, de moricaud, et lui conseillassent de retourner dans son pays manger du couscous. Bamboula avait alors la manie de prendre à témoin les gens qu'il croyait riches et respectables, car il s'imaginait que, au moins, s'ils ne le défendaient pas ostensiblement, le soutiendraient intérieurement. Ce fut ainsi que, plusieurs fois, il se tourna vers Nicolas, surtout quand Julien se trouvait là. Ce Julien ne pouvait voir le nègre. Dès qu'il le rencontrait, il ne manquait jamais de lui dire « Va te faire blanchir, négro !» Ancien bataillonnaire, il avait gardé de son séjour en Afrique un langage où se mêlaient le français, l'argot et l'arabe. À chaque instant, il éprouvait le besoin de se moquer de Bamboula, qui le craignait. Cela le prenait tout à coup. Au milieu d'une partie de cartes, il se tournait soudain vers le nègre et lui disait « Sidi Barka Mossaganem » ou « Travadja la Mouker ». Puis, comme si de rien n'était, il se remettait à jouer. Nicolas fit le tour de la grande salle, salua quelques clients qu'il connaissait de vue et, finalement, s'assit à côté de Fred qui jouait au jaquet avec son ami que l'on appelait Odette II, parce qu'il existait quelque part une autre Odette. « Vous regarderez s'il triche !» lui fit-elle tout de suite. Nicolas avait plusieurs points de commun avec ce monde désœuvré. Le besoin effréné de luxe et l'attente d'un événement extraordinaire, car tous attendaient quelque chose, comme ce Fred qui, chaque matin, quittait son hôtel avec la pensée de ne pas y retourner le soir, certain qu'il était de rencontrer un jour une femme qui l'entraînerait dans un monde fabuleux. Bien qu'il vécût sans argent, il portait des chemises de soie avec ses initiales et en prenait soin plus qu'une femme ne l'eût fait de ses parures. À peine rentré chez lui, il ôtait son veston, le brossait, le posait sur un porte-manteau perfectionné et allongeait son pantalon entre deux plaques de bois qui se vissaient comme une presse à raquettes. L'été, il sortait sans gilet, laissant flotter au vent sa cravate de foulard. Dans les petits restaurants, il craignait toujours de se tacher, et bien qu'il sût que c'était vulgaire de glisser sa serviette dans son col, il ne manquait jamais de le faire. Dès qu'il se croyait en bonne société, ses façons changeaient. Ce qui lui répugnait surtout, c'était d'user ses vêtements dans un milieu si médiocre et duquel il n'espérait rien. Le pyjama avait beaucoup d'attrait pour lui. Quand on l'appelait au téléphone, il descendait au bureau de l'hôtel en pyjama, les cheveux collés, la gorge nue, une pochette de couleur dans le veston. Il avait le faible de se montrer en manches de chemise, la taille serrée dans une ceinture. Sa poitrine était alors mieux dessinée. Aussi, pour un rien, ôtait-il son veston. Il avait figuré dans un film et souvent il répétait que ce n'était que par la garde-robe qu'on pouvait arriver. Parfois, lorsque, attablé avec quelque étranger, il s'abandonnait à bavarder, ce qui était très rare, car la plupart du temps il s'employait à rester silencieux, il disait d'une voix tranchante « En France, l'habit fait tout. Un homme bien habillé sera reçu partout. On le considérera. » Des phrases aussi longues sortaient rarement de sa bouche. On eût dit qu'une appréciation le diminuait. Comme certaines femmes, il ne parlait que pour remercier ou s'excuser. Il préparait en ce moment un numéro de music-hall. Une scène amoureuse, mimée et dansée. Sa partenaire, la grande Odette, tous deux avaient décidé de prendre comme nom de guerre les Audifred, le retrouvait au Monaco. C'était une fille longue, maigre et brune, dont le genre consistait à porter des capes et des feutres noirs et à s'entourer le cou d'une cravate de chasse éblouissante de blancheur. Quand ils se trouvaient ensemble, ils manifestaient l'un pour l'autre une profonde indifférence. Derrière cette attitude, il semblait pourtant qu'ils fussent unis par un amour tel que point n'était besoin de se soucier de l'opinion d'autrui. Sur un signe à peine perceptible de Fred, Odette se levait et le rejoignait. Lorsqu'ils se quittaient, ils ne se disaient pas un mot, comme si, infailliblement, ils devaient se retrouver. Odette plaisantait avec d'autres hommes, leur demandait des cigarettes, buvait dans leurs verres, sans que Fred parût seulement le remarquer. Elle passait son temps dans les caveaux montmartrois à écouter les allusions méchantes que faisaient les chansonniers sur les vedettes de théâtre. Celles-ci étaient toutes, à ses yeux, d'une avarice sordide et jalouse des talents qui eussent pu naître à leur côté et, par la suite, les éclipser. Elle affectait une démarche dégingandée et bohème, un air nature, comme elle disait. Dans sa conversation entrait une foule de mots grossiers, et quand elle se trouvait en compagnie d'hommes qu'elle soupçonnait appartenir à la bonne société, elle s'excusait au début en ces termes. « Je dis ce qui est, hein ? Il ne faut pas vous froisser pour cela. Je suis comme je suis. » Il n'y a pas d'hypocrisie en moi. » Envieuse, elle ne pouvait voir les autres femmes et leur vouait une haine féroce. « Leur minauderie, c'est de la comédie pour amadouer les hommes. » Elle avait pourtant des qualités profondes. Quand quelqu'un la blessait en parlant ou lui annonçait qu'on avait dit du mal d'elle, elle ne se fâchait pas, se mettait à rire et s'écriait simplement « On a fait ça pour rigoler !» Elle avait un fils de 3 ans qu'elle avait prénommé Serge et qui se trouvait en pension à Fontenay-aux-Roses. Chaque dimanche, elle lui rendait visite. À la porte d'Orléans, elle achetait des sablés et des oranges. Jusqu'à 5 heures de l'après-midi, elle le promenait. Elle veillait à faire l'effet sur la nourrice d'une bourgeoise ayant accouché clandestinement et sur l'enfant celui d'une mère idéale, un peu comme la fée d'un conte. Cet enfant était sa raison d'être. Personne, même Fred, ne savait qu'il existait. Elle gardait cette passion au fond de son cœur, et même, quand une autre femme lui parlait d'un amour pour un enfant, aussi grand fut-il, aussi sincère, elle résistait toujours à l'envie de tout raconter. « Qu'est-ce que vous attendez pour apprendre un numéro de danse ? » fit-elle à Nicolas en fermant le jaquet. « Rien !» Tu parles sans savoir, observa Fred. Il ne s'expliquait pas qu'Odette pût ainsi, délibérément, se faire du tort. Parce que le numéro qu'il préparait n'était pas prêt, il ne souffrait pas que d'autres gens parlassent de music-hall. Il avait continuellement l'impression qu'il arriverait trop tard, que des concurrents prendraient les places qui, à 7 minutes, étaient libres. « Tu trouves que nous ne sommes pas assez nombreux ? » continua-t-il. « Laisse ce jeune homme faire ce qui lui plaît. Ce n'est pas à toi de lui donner des conseils. » D'ailleurs, je ne saurais jamais me présenter sur une scène, fit Nicolas pour calmer son voisin. Tu vois, de quoi te mêles-tu? Chacun se débrouille à sa façon. Allez, viens, on va partir, il est minuit. Nicolas se trouvait seul depuis une demi-heure lorsqu'un jeune homme infirme entra dans le café. Il marchait péniblement en s'aidant d'une canne. À chaque pas qu'il faisait, sa jambe et son bras gauche, comme désarticulés, exécutaient quelques contorsions. Il avança sans regarder personne et, après de longs préparatifs, s'assit à la table voisine de celle de Nicolas. Un léger duvet ombrait par endroits ses joues creuses. Pâle, les lèvres gercées, les yeux immenses dans les orbites décharnées, voûté comme un vieillard, il semblait tenir à la vie par miracle. Pourtant, il était vêtu avec un soin extrême et les plis de ses vêtements, sur ses membres paralysés, étaient impeccables. À peine assis, il eut un geste étrange pour poser sa canne sur la banquette. Il était vêtu d'un complet sur lequel, à travers les modifications que le tailleur avait dû apporter pour mouler son corps difforme, on distinguait les derniers apprêts de la mode. Puis il s'accouda et examina les gens qui l'entouraient. À la vue de Nicolas, il eut un sourire, puis détourna la tête en feignant, à la façon d'une femme, d'être sérieux, tout en laissant deviner qu'il ne l'était point. Quelques secondes après, un éclat de rire changea cette expression. « C'est amusant, dit-il, d'être à côté de quelqu'un sans parler. Ne trouvez-vous pas, monsieur ?»« C'était justement ce que je pensais. Je m'appelle Raphaël, si cela peut vous intéresser. » Raphaël tout court, fit Nicolas, qui n'avait discerné dans l'attitude de son voisin qu'un goût de plaisanter. « Raphaël Simonet, et vous, monsieur ?» « Nicolas Aftalion. » L'infirme le regarda avec attention, puis d'un geste rapide et en même temps honteux, il trempa un doigt dans le grog qu'il avait commandé. « C'est trop chaud, je ne bois pas. » Fils unique d'une famille dont le père était industriel, Raphaël Simonet avait été gâté et n'agissait qu'à sa tête. Habitué de voir tout plier autour de soi, il éprouvait au dehors, où les gens suivaient leur chemin, un sentiment de faiblesse qui, au lieu de l'inquiéter, l'étonnait et avec lequel il jouait. À cause de la vie monotone qu'il menait, il s'était mis à le rechercher. Dès qu'il se trouvait seul, il avait remarqué que la foule, le mouvement des rues, le mystère de la ville provoquaient en lui une grande frayeur. Un vice de son esprit faisait qu'à l'encontre d'autrui, il se plaisait dans cet état. Aussi lui arrivait-il souvent de ne pas reparaître durant plusieurs jours au domicile de ses parents. Au cours de ses fugues, il errait par les rues, cherchant inconsciemment à se perdre. Finalement, lorsqu'exténué, il était incapable de se traîner, il s'approchait d'un passant et lui disait son adresse. On le reconduisait en taxi. Par peur de l'épouvanter, ses parents ne lui faisaient aucun reproche. L'innocence de son âme l'empêchait de voir son mal. Celui-ci lui paraissait aussi naturel que d'être petit à un enfant. Quand on lui parlait, son visage s'illuminait de fierté. On eût dit que son interlocuteur lui annonçait les plus importantes des nouvelles. Il écoutait avec attention, sans comprendre entièrement ce qu'on lui disait. La parole l'étonnait. Avant toute chose, elle était pour lui le lien qui attachait les hommes entre eux. Quand il entendait parler, il s'imaginait entrer dans un monde inconnu. On avait beau faire des gestes, crier, se fâcher, ce lien était toujours présent à son esprit. Dans sa chambre se trouvaient les objets les plus divers. Il avait conservé tous ses jouets. Il soignait avec passion tout ce qu'il possédait. Chaque fois que quelqu'un semblait ne pas tenir à un objet, il demandait aussitôt « Vous me le donnez ?» Ainsi avait-il obtenu une foule d'objets hétéroclites. Mais il souffrait le martyre quand un camarade disait par exemple à un groupe dont il faisait partie Qui veut ce canif ? Il brûlait alors de crier « Moi !» Mais la timidité l'en empêchait. Un de ses voisins le précédait toujours. Alors Raphaël s'arrangeait pour le prendre à part et il lui disait « Cela ne vous servira pas. Vous n'y tenez peut-être pas. » Mais le nouveau possesseur du canif, avec cette inconscience des hommes qui viennent d'avoir eu des regards posés sur eux, répondait par un mot quelconque et se hâtait de retourner rire au milieu du groupe. Raphaël rentrait dans un état d'abattement tel que sa mère le couchait aussitôt. Une heure durant, il demeurait sur le dos, les yeux fixés devant lui. Soudain, il appelait sa mère et, en sanglotant, lui racontait ce qui venait d'arriver. Au contraire de la plupart des jeunes gens, il ne taisait aucune de ses pensées, dévoilant même les côtés dont il eût pu avoir honte. La notion du bien et du mal lui demeurait étrangère. Pourtant, à l'intelligence qu'il mettait parfois dans ses propos, il semblait qu'il fût un homme. Ses parents lui promettaient alors de lui acheter un objet identique. Mais Raphaël était capricieux. C'était celui de son camarade qu'il désirait. Pour l'apaiser, il fallait lui jurer qu'on irait le chercher. « Et s'il ne veut pas le donner ? » demandait-il. « On le lui prendra en cachette, » répondait son père, qui savait que son fils aurait tout oublié le lendemain. Il désirait ainsi les choses les plus bizarres, affirmant qu'il n'était pas seul à les désirer. Ses parents ne le contredisaient jamais, tant il était violent. Pour un rien, il se mettait en colère. À chaque instant, une vétille le contrariait. Ses accès étaient pénibles à voir. Ce n'était point la colère puissante de l'homme, ni celle rageuse de l'enfant, ni celle encore méchante de la femme. C'était une colère faible de malade. Il ne criait ni ne pleurait. Son visage se décomposait. Ses mains s'ouvraient et se fermaient avec rapidité. Il tentait, en des mouvements précipités, de se servir de ses membres paralysés. Sa maigre poitrine se déjetait. On eût dit que dans son corps raidi, quelque chose allait se rompre, comme chez les enfants chargés lourdement. Soudain, il poussait quelques cris aigus, s'effondrait sur un siège et se mettait à trépigner. Depuis que l'infirme était entré dans le café, Nicolas éprouvait de la gêne à côté de ce jeune homme qu'il soupçonnait d'appartenir à une bonne famille. Il redoutait par-dessus tout l'arrivée de Julien, qui, en apercevant Nicolas, ne manquait jamais de chanter « Salut, salut à toi, petit Nicolas !» parodiant ainsi le chant du 17e, ou de dire « Bonsoir, Naphtaline !»« Je viens rarement ici, » dit Nicolas. « Mon père est mort, nous avons perdu notre fortune. » Nicolas se tut, attendant une réponse. Mais les lèvres de l'infirme demeuraient serrées. Seuls ses yeux se mouvaient avec une vivacité extraordinaire. À la fin, il demanda « Répétez ce que vous venez de dire. Je dis que nous avons perdu notre fortune. » Quelques secondes encore, le visage de Raphaël Simonet resta fermé. Puis il s'éclaira. Comme si la lumière se répandait sur tout son corps, ses doigts, que Nicolas n'avait pas encore remarqués, remuèrent et sa poitrine se souleva. « Ah, je comprends. Vous dites que vous avez perdu votre fortune. Oui, je comprends très bien. Et vous, est-ce que vous m'entendez ?»« Bien sûr. Qu'est-ce que je dis ? Vous me demandez si je vous entends. »« Ah, je vous demande cela ?» Déjà, il ne pensait plus à ce qu'il disait. Son attention s'était portée sur une grosse boule nickelée dans laquelle le garçon mettait des serviettes. « À quoi cela sert cela, monsieur ? » demanda-t-il. « On y met des serviettes. »« On y met des serviettes ? » ?»« Oui, du moins je le suppose. Je viens si rarement ici que je n'en sais rien. » Il répugnait à Nicolas de donner à son interlocuteur l'impression qu'il vivait dans ce café. Il voulait que sa présence au Monaco parut être dû au hasard. Pourtant, une idée qui traversa son esprit s'opposa à ce désir. « Il a certainement de l'argent » avait-il songé tout à coup. À présent, deux parties s'affrontaient en lui. Continuerait-il à prendre des airs de passant fourvoyé en un mauvais lieu, ou bien profiterait-il de la faiblesse de l'infirme pour lui soutirer ce qu'il possédait ?« Je ne le connais pas, après tout. Il pensera de moi ce qu'il voudra, cela m'est bien égal. » Encouragé par ses réflexions, il se pencha vers son voisin et lui parla à voix basse. « Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions perdu notre fortune. C'est exact. Nous avions tout, l'appartement, le piano, les meubles anciens. Et maintenant, savez-vous où nous sommes ? Nous habitons un petit hôtel, ma mère et moi. Nous ne possédons plus rien. Pour aller au restaurant, nous sommes obligés de vendre nos derniers vêtements. Vous avez perdu votre fortune ? Qu'est-ce que vous avez dit après ? Il fait exprès, pensa Nicolas. J'aurais beau lui demander 100 fois de me prêter de l'argent, 100 fois il fera semblant de ne pas comprendre. Il voulut pourtant tenter la chance une dernière fois. « Vous pouvez me prêter un peu d'argent ?»« De l'argent ?»« Oui. » Et il fit le geste, comme s'il eût parlé à un sou, de prendre quelque chose dans une de ses poches et de le remettre à l'infirme. À ce moment, il remarqua, tout près de la porte, un homme d'une 60aine d'années qui, pour se donner une contenance, faisait semblant de lire une affiche de théâtre. Une barbe grise encadrait son visage. De temps en temps, il jetait sur les deux jeunes gens un coup d'œil furtif. Des lunettes masquaient son regard. Parfois, il cherchait dans sa redingote un papier qu'il remettait aussitôt dans une autre poche. « Il ne faut pas rester dans le passage, » fit Jojo en lui désignant d'un geste large toute la salle. « Tu n'as qu'à t'asseoir. » Le long de la devanture, à l'intérieur, se trouvaient 3 guéridons qui étaient si mal placés que jamais personne ne s'y installait. Obéissant au commandement du garçon, le vieillard s'assit immédiatement devant l'un d'eux. Nicolas s'était tu. Sans qu'il pût expliquer pourquoi, la présence de cet inconnu le glaçait. Il l'épiait. Soudain, au moment où il leva les yeux vers lui, avec l'espoir de le trouver occupé à quelque chose, le vieillard, portant un doigt à ses lèvres, lui fit signe de se taire. Nicolas détourna la tête aussi vite qu'il le put. Il aurait voulu se lever et partir, mais il n'osait bouger. L'infirme, qui tournait le dos à l'inconnu, parlait seul. De temps en temps, il interrompait ses bavardages pour demander à Nicolas de lui répéter ce qu'il avait dit tout à l'heure. Nicolas essayait en vain d'amener la conversation sur un autre sujet. Il regrettait de s'être allé à demander de l'argent. Chaque fois que Raphaël l'interrogeait, « Mais qu'est-ce que vous disiez donc tout à l'heure ?» Il répondait, « Assez, assez, parlons d'autre chose. » Justement, comme il venait de prononcer cette phrase pour la 6e fois, il eut la sensation très nette que le vieillard s'était levé et s'approchait de lui. Il leva les yeux. Raphaël avait pâli, mais comme si de rien n'était, il fit en s'adressant à son voisin. « Vous disiez tout à l'heure ?»« Je ne sais pas. »« Mais si, vous parliez » continua-t-il rageusement. Il voulait montrer à son père, qui se tenait à présent près de lui, qu'il savait causer avec un étranger. « Je vous assure que je n'ai rien dit, » répondit Nicolas, qui se figurait que l'infirme cherchait, pour le confondre devant le vieillard, à ce qu'il lui redemanda de l'argent. « Je suis tombé dans un piège, » pensa-t-il. Mais subitement, le visage de Raphaël se radoucit. Son père lui avait pris la main. « Allons, mon petit, il faut rentrer. » « Ce n'est pas bon pour ta santé de te coucher si tard. Tu devrais comprendre que je ne veux que ton bien. Allons, viens !» Puis, se tournant vers Nicolas, M. Simonet continua. « Dites-lui, monsieur, de rentrer. Je suis son père. Il vous écoutera peut-être mieux que moi. » Rassuré, Nicolas s'adressa à l'infirme. « Vous devriez écouter votre père. Il y a déjà longtemps que je vous conseille de rentrer chez vous. » Raphaël parut un instant étonné, puis, sans dire un mot, il fit signe à Nicolas de pousser la table pour qu'il pût passer. « Laissez, monsieur, laissez !» fit le père, qui, subitement vivifié, se hâta en geste menu d'écarter la table, puis de prendre la canne et le chapeau de son fils sur la banquette. Lorsque Raphaël fut debout, il le prit par le bras et le conduisit vers la porte. Soudain, s'apercevant que son fils partait sans dire au revoir à Nicolas, il lui fit « « Sois donc poli, ce monsieur était gentil pour toi. » Alors l'infirme se retourna et en souriant, lui fit de sa main valide un adieu comme on en fait quand un train s'éloigne. À 2 heures du matin, on ferma le café. Nicolas sortit. Il n'avait pas su quel temps il avait fait dans la journée. Un profond dégoût de lui-même l'envahissait. Il avait subitement conscience de sa déchéance en reprenant contact avec le monde. Il sentait bien qu'à cet instant, s'il avait rencontré un ivrogne ou un fou, sa seule pensée eût été de leur venir en aide. Des fenêtres étaient éclairées. Des gens qui avaient sans doute travaillé, qui s'étaient amusés, habitaient là. Il était si faible que son corps, comme celui d'un convalescent, lui paraissait traverser tour à tour des couches d'air tièdes et chaudes. En marchant, il tentait de réagir. L'amour de ce père venant chercher son fils lui faisait considérer sa détresse avec amertume. Il aurait voulu secouer le monde qui l'enserrait, partir le plus loin possible et vivre ainsi que tous les hommes. Il se jura de ne plus retourner au Monaco. « L'argent seul peut me sauver, » pensa-t-il. « Si j'étais riche, je serais un autre homme. Je serais généreux, je ferais le bien. Les gens qui m'entoureraient seraient heureux. Mais avant tout, l'argent. » Tous les moyens qui peuvent exister pour s'en procurer défilèrent devant ses yeux. Ils étaient si nombreux qu'il ne pouvait les compter. Toutes les formes du hasard, le mariage, le commerce, se succédaient dans son esprit. Puis, tout à coup, il se rendit compte qu'il était seul, qu'il n'y avait presque aucune différence entre tous les états auxquels il pouvait atteindre et le sien présent dans cette rue.